Dunar, déjà c'est donc D pour développement, hein. Développement des usages numériques pour les associations rurales. Donc c'est pour ça que ça se passe en rural et voilà. Et samedi à Saint-Pathin-de-Racan. Donc l'idée c'était pendant 2 ans. Pour l'association donc ID37, c'était d'aller à la rencontre des associations du Pays Loire Nature. Donc c'est un territoire qui s'étend de Langeais, Bourgueil, Château-Lavalière, Marais, donc le nord-ouest du département. Et donc l'idée c'était vraiment de, enfin l'association elle travaille en soutien des associations, et là le soutien apporté c'était le numérique. Qu'est-ce qui se passe dans une association, quelles compétences on a, qu'est-ce qu'on peut développer en plus pour gagner du temps, pour mieux travailler ensemble, voilà.
Alors l'association ID37, hein, peut-être qu'on peut la présenter brièvement. Vous en faites partie, du coup, j'imagine.
Voilà. C'est l'association ID37, et donc c'est basé à Saint-Pierre-des-Corps. Donc c'est ID comme insertion et développement. Donc il y a toute une partie insertion. Mm-hmm. Nous, moi, je suis plutôt sur la partie développement. Donc il y a le dispositif DLA que les associations, surtout employeuses, connaissent. C'est-à-dire que on peut faire appel au DLA pour faire un diagnostic du fonctionnement de son association et ensuite être accompagné pour améliorer le fonctionnement sur plein de points différents. Donc c'est un soutien départemental pour les associations. Voilà.
Ce projet Dunar, alors si je comprends bien, développement des usages numériques pour les associations rurales, hein, on va le répéter plusieurs fois pendant l'émission pour bien être clair sur ce nom-là. Ça consiste finalement à améliorer et peut-être aussi à donner accès aux associations aux derniers outils numériques. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas?
Le côté derniers outils numériques on n'est pas forcément sur l'innovation à tout prix. C'est-à-dire que c'est déjà partir. Enfin, l'idée justement, que ce soit sur 2 ans, il y a eu des phases de sensibilisation. Les associations pouvaient faire des bilans un petit peu d'où ils en étaient sur voilà, il y avait un petit questionnaire pour qu'ils se rendent compte un petit peu qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que j'aimerais bien améliorer. Donc c'était de partir vraiment de voilà, c'est comme dans une classe, il y a plein de niveaux différents. Donc c'est difficile d'être que sur l'innovation quand des personnes ont besoin de choses très simples. Donc on a essayé d'avoir quelque chose d'assez large en fait comme proposition. Voilà, de déjà savoir gérer une boîte mail efficacement, enfin avec, parce que c'est des choses que tout le monde a reçues, tout le monde a une boîte mail, donc elles sont souvent intuitives, mais est-ce qu'on prend le temps vraiment de bien gérer, voilà, on a quand même eu des personnes qui me disent, moi, je sais plus, j'ai 50 mails, j'en ai marre, comment on fait, donc voilà, donc on a travaillé aussi là-dessus, sur des choses très simples.
Voilà. Alors, les associations rurales, est-ce qu'on peut revenir sur ce terme, parce que vous adressez principalement à elles, qu'est-ce que ça signifie finalement, association rurale? Est-ce que c'est des associations, voilà, qui sont, peut-être que Ludovic aussi, vous pouvez répondre à cette question, est-ce que c'est des associations qui sont, voilà, comme on dit en tout cas, un peu mises à l'écart de l'urbanisme, ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une notion aussi qu'elles sont en retard sur le numérique?
Là-dessus, j'aurais pas d'expertise là-dessus. Je sais pas, Ludovic, si tu peux.
En fait, je pense que c'est pas une question de retard. C'est un projet qui aurait pu avoir lieu aussi dans le milieu urbain.
D'accord.
C'est juste que là, le projet, en effet, était sur le milieu rural. Après, c'est pas une question de retard, c'est comme le disait Mathieu précédemment, c'est vraiment de faire un petit peu un diagnostic, un constat de comment on utilise. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser le numérique par rapport au projet associatif ou pas? Et si c'est le cas, si on en a besoin, c'est comment en interne on peut mieux l'utiliser, comment on peut mieux communiquer sur ces projets aussi. Parce que lorsqu'on crée des événements, c'est aujourd'hui c'est un peu indispensable d'utiliser les outils numériques pour pouvoir faire connaître son événement, se relater. L'objectif, c'est quand même d'avoir du monde, quoi.
Et oui, parce que c'est vrai que l'aspect communication, pour le coup, ça passe majoritairement aujourd'hui par le numérique, on va pas se le cacher. Bon, les flyers, etc., c'est encore une chose qui existe encore hein, dans la communication, mais maintenant, principalement, c'est les sites internet, les pages Facebook, etc., pour pas citer évidemment les noms, hein, mais voilà, il faut être aussi clair, il faut apprendre aussi à ces associations, en tout cas si elles vous le demandent, de gérer ces outils-là.
Ça, tout à fait. Et puis, il y a aussi l'idée derrière ça, c'est utiliser aussi des outils, on va dire, libres. Mm-hmm. Hein, on appelle les logiciels libres, parce qu'il y en a plein qui existent et qui sont aussi méconnus. Donc, c'est aussi acquérir une culture du web voilà, numérique. Hein.
Quand vous parlez de logiciels libres, vous pensez auxquels, par exemple ?
On a plein. Il y a, par exemple... comme un navigateur, on va parler de Firefox. Ensuite, dans tous les domaines, c'est-à-dire en son, il y a Audacity, en OpenShot pour la vidéo. Après, on utilise du Framasoft.
Oui, des logiciels accessibles gratuitement en ligne, en fait.
C'est ça, tout à fait.
Ok. Alors, ce projet Dunar, j'aimerais qu'on revienne sur son histoire, finalement, parce que c'est pas quelque chose qui date de 2018. Vous pouvez peut-être nous en dire plus sur l'initiative de ce projet-là, qui date de 2016, ou en tout cas, les phases de sensibilisation datent de ce moment-là, c'est bien ça ?
C'est ça. Puis du coup, la réflexion, c'est 2015, quoi. Voilà, c'est... ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est la particularité de ce projet-là, c'est parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de numérique. Là, comme vous disiez, on parlait de plein de façons différentes. Là, il y avait quand même l'orientation de mettre le numérique au service d'un groupe. Voilà, c'est vraiment l'ID37 qui accompagne les associations à remarquer voilà que les outils numériques étaient utilisés pas forcément de façon la plus efficace et donc c'est vraiment d'aller à la rencontre des associations en interrogeant leurs pratiques numériques voilà et c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait et effectivement c'est aussi en milieu rural parce que l'association a une vocation aussi à aller sur tout le département et que du coup même si Tours à beaucoup d'associations, il y a aussi un territoire plus grand.
Alors par rapport à ce projet, concrètement, comment vous intervenez pour démocratiser finalement le numérique au sein de ces associations ? Est-ce que vous leur proposez des espèces de cours ou des interventions ? Comment ça se passe ? On y reviendra effectivement peut-être tout à l'heure aussi plus largement concernant la journée du 10 mars, hein, je n'oublie pas cette journée. mais comment vous faites concrètement pour...
L'idée, c'était à partir des phases de sensibilisation, puis de bilan, diagnostic, de ce qu'on utilise au sein d'une association, c'était de créer un petit peu deux mouvements. Un mouvement très précis, avec un programme de formation, avec des choses, comme je disais tout à l'heure, gérer sa boîte mail, créer un site internet, partager des documents à plusieurs, très, très simples dans la formulation et puis précis. Et puis l'idée, en fait, c'est que comme on est vraiment sur le numérique, mais sur des projets de territoire et puis de coopération, des projets associatifs, donc des projets qui veulent faire se rencontrer des personnes. L'idée, c'est que donc il y a des financements sur ce projet-là sur 2 ans. Après, qu'est-ce qui se passe ? Donc l'idée, c'est aussi de créer une plateforme. Des personnes qui peuvent aussi se rencontrer, enfin dans le principe d'échange de compétences. Donc, les intervenants, c'était surtout là c'était Artefact qui a fait les interventions. L'idée c'était de créer un outil qui s'appelle un wiki, voilà, où ils appellent ça, c'est un terme un peu, c'est comme une gare centrale, voilà.
C'est un outil commun, en fait.
C'est un outil commun, où on va pouvoir mettre pas mal de choses. Des cartes, pour situer un petit peu les personnes, des coordonnées. Là, on fait une banque de compétences, c'est-à-dire, moi, je suis l'association dans tel coin, et puis, si vous m'appelez, je suis capable de vous aider à monter un site internet. Donc, il y avait cette idée-là de faire des ateliers qui avaient moins de termes précis, mais qui voulaient qui veulent créer la dynamique entre les associations. Voilà.
Alors pour ces associations, j'imagine que la chose qui est le plus demandée, ou en tout cas qui a le plus d'intérêt, c'est la création du site internet, non ?
Oui.
Parce que c'est finalement ce qu'il y a aussi de plus délicat à faire en termes numériques, non ?
Bah, c'est souvent un petit peu ce qui revient. Enfin, si on dit très rapidement la question, comment on fait un site internet et puis comment on fait une page Facebook. Souvent, c'est le.
D'accord.
Voilà.
C'est dans l'air du temps.
Et puis c'est vrai que. Mais en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'associations qui avaient déjà un site internet.
Oui.
Après, des fois, c'est plus l'actualiser ou trouver une forme plus moderne. Et puis, bon, après, il y a tout ce qui est le côté. Hébergement, parce que des fois en fait il y a des sites qui n'ont pas d'hébergement, donc il faut, enfin voilà, peut-être que tu peux en parler un petit peu plus
Oui, par rapport aux sites après par rapport aux associations aussi, c'est que il faut savoir, c'est que souvent dans les associations il y a une ou deux personnes qui s'occupent de la partie numérique,
oui.
Et okay. C'est ça en fait qui est assez fragile du coup, et ce qui est intéressant aussi dans projet, c'est d'essayer de faire en sorte que ces personnes puissent aussi plus ou moins former d'autres personnes de l'asso, parce que bon...
Et de mutualiser finalement les compétences ou les savoirs.
C'est ça aussi l'idée, ouais, tout à fait. Et après, au niveau des hébergements, oui, l'hébergement, en fait, il y a des hébergeurs gratuits, voilà, sur certains sites, et puis après, il y a aussi des hébergeurs payants. Après, forcément, on n'a pas la même fonctionnalité par rapport à ça.
Alors, une question plus large par rapport au numérique. C'est vrai que c'est des thématiques qui aujourd'hui sont quasiment indispensables, pardon, que ce soit pour les associations, les entreprises, etc. Site internet, page Facebook. Est-ce que ce numérique-là, on ne doit pas l'enseigner peut-être, pour caricaturer, déjà au lycée ou en tout cas dans le scolaire, apprendre à créer un site internet. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui devrait se faire? Quelque chose qui devrait se faire ou devrait se mettre en place.
Bah, alors, pour ma part, je pense que oui. En fait, moi, au niveau de l'espace multimédia, je reçois des scolaires. Et je me rends bien compte qu'en effet, on parle d'école numérique, mais en fait, il y a des outils qui sont utilisés pour le programme scolaire. Mais en effet, je pense qu'au niveau des écoles élémentaires notamment, et je pense au niveau des collèges aussi, il n'y a pas de matière où on peut réfléchir sur l'utilisation du numérique, de ce qu'est le numérique, qu'est-ce que le web, qu'est-ce qu'Internet.
Des dangers aussi, hein, on ne l'évoquera pas parce que évidemment le sujet est trop large, mais ça rentre aussi dans ce cadre-là.
En effet, je pense tout à fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment un manque dans ce domaine-là sur la réflexion au niveau, dans les écoles pour mieux comprendre l'environnement dans lequel on vit et ce qu'on utilise au quotidien.
Oui, parce qu'on parle aussi de la génération Y, comme quoi on sait tout faire sur Internet. Je dis on, hein, parce que je m'inclus dedans. Vous aussi, allez, on s'inclut tous dedans.
Merci.
Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que on part du fait que les jeunes aujourd'hui savent manier l'Internet, mais pour le site Internet notamment, c'est un bon exemple. C'est beaucoup plus complexe que simplement aller sur Facebook ou aller sur son ordinateur. Il faut aussi le préciser.
Oui. Bah après, ouais, ils sont... Alors, en fait, il y a la notion d'être acteur dans le numérique, d'être consommateur. Et en effet, souvent, je me rends bien compte, pour être intervenu aussi dans des collèges, où souvent, ils vont utiliser 2-3 sites ou 1 ou 2 réseaux sociaux, mais toujours les mêmes choses, en fait.
Oui.
Et du coup, quand on sort de ce qu'ils utilisent en permanence...
Ils sont perdus.
Voilà, c'est... Tout à fait ça.
Ouais. On va parler chiffres maintenant, si vous le voulez bien. Ce projet Dunar, on va recentrer un peu le débat sur ce projet-là. Dunar, je le répète, développement des usages numériques pour les associations rurales. 35 associations et 50 membres d'associations y ont participé. Est-ce que c'est des chiffres qui sont toujours d'actualité ? C'est, il me semble, avoir trouvé sur un événement que vous avez organisé. En tout cas, est-ce que vous pouvez me commenter ces chiffres ?
C'est sur les bons chiffres.
Ah bah magnifique, je me suis pas trompé.
Oui. Non, j'ai fait un décompte fin. oui, ce sont ce sont, voilà, ce sont des chiffres. Que, c'est vrai que les chiffres, on peut en dire beaucoup ou peu. C'est, voilà, ça veut dire que ça a mobilisé quand même pas mal d'associations. On veut toujours plus, on veut toujours plus de membres. Après, il y avait la, c'est vrai qu'il y avait la complexité de, d'être sur un territoire voilà, un petit peu large. Donc après, on n'a pas toujours accès aux, aux habitudes de, des habitants, enfin, c'est normal. Donc il y a des personnes qui ne faisaient pas forcément le trajet pour aller à une formation un peu plus loin. Donc ça, c'était, il y a plein de choses comme ça qui sont à prendre en compte. Voilà, donc c'est... En tout cas, on a vu des personnes motivées, des personnes qui aussi auraient voulu venir plus souvent, parce que c'est une problématique rurale, urbain, c'est des personnes dans les associations, c'est assez centralisé. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses, et puis du coup, c'est pas toujours facile de démultiplier les personnes dans les associations, voilà.
Alors aujourd'hui, messieurs, je vous propose un quiz spécial high-tech, on va dire ça comme ça, informatique high-tech. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous pose ces petites questions, c'est parti. Première question, est-ce que vous pouvez me donner le nom du tout premier ordinateur? En tout cas, le premier ordinateur qui a été inventé sur cette planète. Ordinateur à proprement parler, hein, électronique, etc. Est-ce que vous savez son nom? Une petite...
Pas du tout.
C'est un ordinateur qui s'appelait ENIAC. Alors évidemment, rien à voir avec les ordinateurs d'aujourd'hui. À l'époque, c'était des immenses serveurs qui étaient absolument gigantesques. Et il a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale. On estime entre 1943, en tout cas le début de ce projet-là, et 1946. Et il servait évidemment à décrypter soit les codes militaires, soit à commencer à faire des calculs dans le but militaire. Et alors, deuxième question qui va avec. Combien pesait cet ordinateur ? En sachant que c'est assez gigantesque. Et aujourd'hui, évidemment...
4 tonnes.
Et ben, c'est plus. C'est même beaucoup plus.
C'est des armoires.
C'est plus. Ouais, non, mais c'est dingue. C'est assez dingue. Aujourd'hui, 70 ans après, ou 80...
Dans la poche.
30 tonnes. Il pesait 30 tonnes. Voilà, c'est assez dingue. Troisième question. Quand a été créée la société Samsung ? Je vous donne un petit indice.
Fin des années 60.
Alors non, je vais vous donner un indice parce qu'en fait cette société là, Samsung, n'était pas du tout spécialisée avant dans le domaine informatique, étant donné qu'à l'époque l'informatique n'existait pas encore. Oui, on se rapproche effectivement. C'est en 1938. Et en fait, c'était une société d'exportation de poissons séchés, de légumes et de fruits. Voilà, une société coréenne qui, au fur et à mesure, évidemment, de l'histoire, s'est spécialisée dans l'informatique. Et petite précision aussi, Samsung signifie 3 étoiles en coréen. Ça veut dire 3 étoiles. Voilà. De l'histoire un peu de cette société là. Alors on n'a pas parlé d'Apple et j'en parlerai pas dans le quiz, hein, c'est pas par préférence ou quoi, mais en tout cas voilà, c'était pour la petite histoire. En 1996, est-ce que vous pouvez me donner ou en tout cas me dire un chiffre sur combien d'ordinateurs personnels connectés à internet étaient accessibles dans le monde? Combien d'ordinateurs connectés à internet dans le monde en 96? C'était il y a une trentaine d'années, quoi. Non, 20, un peu 20, moins. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, oui, c'est
ouais.
Vrai que je...
Ouais, ça fait beaucoup.
Non, oula, je nous ai tous vieillis, là, d'un coup.
Là, c'est le début de la démocratisation
voilà,
sur Internet.
Effectivement.
Donc,
Microsoft, c'est le premier interface graphique.
Ouais.
Le chiffre est... 6 millions.
Ah, on n'est pas loin, pas loin. C'est 10 millions, mais dans le monde, hein. J'entends bien dans le monde. Et aujourd'hui, à titre de comparaison, 3,81 milliards d'internautes avec un ordinateur et une connexion dans le monde, 51% de la population. Ces chiffres datent d'avril 2017, ils ont probablement évolué. Avec Par contre, il faut le préciser, des taux de pénétration d'Internet dans le monde bien différents en fonction des continents. 88% en Amérique du Nord, 84% en Europe, 29% en Afrique et 33% en Asie du Sud. Donc voilà, ça mesure un peu l'ampleur, en tout cas, du développement numérique qui reste dans ces continents-là, qui reste à faire. Dernière question, est-ce que vous pouvez me donner les trois sites les plus visités en 2017 en France ? Les trois sites Internet les plus visités. On commence par le premier, le plus facile.
Alors, compris les réseaux sociaux.
Tout compris.
Je pense que YouTube, Facebook doit être dans la...
Ouais, alors oui, c'est ça. Facebook 2, YouTube 3, et alors le premier. C'est tout le plus grand, le plus gros.
Google, non ?
Voilà, tout simplement.
Ah oui,
Google.
En recherche.
Mais oui, voilà. Voilà, on considère évidemment dans ce cas-là que c'est un site internet. Mais en tout cas, voilà. En termes de chiffres, hein, 40 millions de visites par mois, 16 millions par jour, Google. Voilà. Facebook, 26,9 millions. YouTube, 23,4 millions. Voilà, ça, c'est côté chiffres. Et on a fini le quiz. Donc, on va passer maintenant à l'événement du 10 mars. Puisque c'est ce projet Dunar, en tout cas pour clôturer d'ailleurs, vous le précisez sur la petite affiche, pour clôturer le projet Dunar, vous organisez le numérique dans tous ses états, c'est le nom de cette journée-là, et c'est à l'espace numérique de Saint-Paterne-Racan. Voilà, donc peut-être qu'on va se tourner vers vous, Ludovic. Pourquoi organiser ça là-bas finalement, à l'espace numérique? Bah, question bête, simple,
non,
mais
j'y réponds. ça nous a été proposé, donc et puis la structure, en fait, c'est cohérent que ça se passe aussi là-bas, parce que c'est un espace multimédia dans lequel il y a une salle informatique, donc un espace public numérique. Mm-hmm. Pas que, parce que dans cette structure, il y a aussi un point information jeunesse, un point information association. Il y a une salle qui peut, voilà, permettre de faire des réunions pour les assos, des entreprises. Donc c'est assez polyvalent quand même. On pourrait appeler ça un centre socio-culturel multimédia.
D'accord.
Hein? Et puis on a accueilli des ateliers. Et puis que une partie de notre travail à l'espace multimédia de Saint-Paterne-Racan, c'est aussi de conseiller les gens au niveau du numérique, de les informer et de donner des cours.
Donc c'était finalement logique.
Ça paraît
tout à fait logique. Non, mais c'est vous avez bien fait de préciser.
Et que je pourrais rajouter quand dans le milieu rural, des structures comme ça, il y en a très peu.
Comment ça va se passer cette journée-là? Ça commence à 15h, si je ne me trompe pas, pour finir à 20h30 avec des ateliers, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ça?
Ben, oui, on a fait un format comme ça dans l'après-midi, et puis d'aller jusqu'à l'apéro le soir, finir avec DJ Christian qui mettra la musique, qui va mettre de l'ambiance. Ça va être très très sympa.
Voilà. Parce qu'il faut que ça reste festif aussi, le numérique doit être festif.
C'était vraiment l'idée là de s'amuser aussi avec ça. Et puis de pas faire non plus une journée trop de 9h à minuit, voilà. Donc de se dire, parce qu'en fait, quand il y a écrit numérique, des fois, on se pose la question quand même de venir. Donc on a voulu faire un format, voilà, un petit peu rétréci comme ça. Et donc c'est vrai qu'il y aurait des ateliers de 15h à 18h. Donc il y a une grande salle quand même de l'espace multimédia. Okay. Donc il y a sur l'affiche. Donc il y a le Fun Lab qui est un petit peu, qui est assez connu sur Tours, hein, qui travaille sur les impressions 3D, sur une brodeuse numérique, voilà. Il y a l'association Player Up qui travaille sur le jeu vidéo comme objet culturel, voilà, qui a une réflexion sur les différentes époques des jeux, sur comment on le fait en famille, etc. Il y a le Cressol qui est assez en avance sur le numérique collaboratif, voilà, qui essaie de créer des plateformes qui aident les différents intervenants au niveau de l'économie sociale et solidaire de se relier. Donc là, qui présentera aussi des projets citoyens en lien avec leurs actions. Donc comme on a fait le Dunard et que c'était aussi la journée du clôture du Dunard, c'est donc on va remontrer à ceux qui ne l'ont pas vu un petit peu des photos, des choses qui se sont passées, plus l'outil, les outils qui ont été créés, puis d'interroger. Enfin, on va, il y aura des choses qui vont être faites pour interroger bah, les suites, parce que du coup nous ça nous intéresse que effectivement ça dure 2 ans. C'est, là il y avait beaucoup de moyens, mais on souhaite qu'on puisse répondre à la suite et puis d'accompagner ça. Et voilà, est-ce que j'oublie quelque chose ?
En parlant de suite, justement, quelle est la suite à ce projet-là, Dunard ? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est réfléchi, qui est mis en place ?
C'est quelque chose qu'on a réfléchi, et qui n'a pas pour l'instant de choses concrètes. Hein. On ne peut pas dire il va se passer ça exactement suite au Dunard. Mais voilà, comme disait Ludo, Vic, c'est vraiment... pour nous, c'était important que ça se passe à l'espace multimédia parce que c'est quand même un symbole, comme il disait, le rural, le numérique.
Oui, symbole de ruralité aussi, on l'a pas dit.
Voilà, quelque chose de. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Enfin, il y a beaucoup de richesses dans ce lieu et voilà, qui peut être un lieu ressource, qui doit pas porter tout sur ses épaules. Hein, c'est pas ça l'idée. Mais voilà, qui est incontournable et c'est. Voilà, et je pense que nous, on a eu quand même déjà des retours hein, de personnes qui ont participé, qui ont été très contentes, d'autres qui ont été moins contentes aussi. C'est que malgré tout, on est sur l'approche du numérique où des fois, c'est vous nous embêtez, pour pas dire d'autres mots, avec le numérique. Donc du coup, je pense que c'est important de le maintenir dans la convivialité, dans quelque chose d'ouvert et puis de rencontre. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons-là.
Et d'ailleurs, c'est ouvert à tous, donc pour le coup, c'est pas qu'aux associations.
Non, c'est tout public. Et puis on s'est rendu compte aussi que de toute façon, une personne qui est dans une association est une personne. Voilà. Et que
oui, c'est vrai, ça semble logique.
Et que généralement, autant s'il apprend quelque chose dans son association, ça peut lui servir, mais autant en tant que personne, s'il rejoint une association, ses compétences peuvent être les bienvenues.
Et dans la même veine, c'est gratuit. C'est aussi important de proposer quelque chose de gratuit pour démocratiser aussi cet aspect numérique. Ou...
Bah, les fonds qui ont permis la mise en place de ce projet sont des fonds européens, les fonds leaders, ça s'appelle, des fonds régionaux. Il y a d'autres partenaires, mais je ne vais pas tous les dire. L'idée, c'est vraiment de prôner des choses de démocratisation, d'innovation. Et un des principes, c'est la gratuité. C'est parce que c'est vraiment de permettre au plus grand nombre, sans frein de prix, de participer. Après, comme dans tous ces projets, comme je disais tout à l'heure, c'est les suites qui posent toujours un petit peu plus de questions, mais il faut retrouver d'autres ressources et voilà.
Dernière petite chose, où est-ce que les auditeurs peuvent retrouver toutes ces petites informations ? Est-ce que vous avez page Facebook, site, adresse mail à donner, quelque chose comme ça, un petit contact ? Ah, vous n'avez pas de site internet, voyons ?
Si, sur www.id37.fr.
Ok, ça c'est le site de l'association.
De l'association. Après, il n'y a pas de Facebook.
Sinon, il est posté sur le Facebook de la commune voilà. De la mairie de Sabaterne-Racan.
Voilà. Okay.
Sur le site de la mairie de Sabaterne-Racan aussi. Et sur la page Facebook de l'espace multimédia de Sabaterne.